On va un petit peu resserrer le scope, hein, puisqu'on a bien vu que, avec l'expérience de l'UPPA, la démarche qualité en formation, ça pouvait se décliner dans une multiplicité d'actions. Notre objet dans le cadre de cette présentation, c'est d'une certaine manière, resserrer l'attention autour de la question de l'évaluation des formations et de l'environnement pédagogique, puisque c'est l'intitulé qu'on a finalement choisi pour cette charte, après de très nombreuses discussions au sein du comité qualité. Est-ce qu'on devait parler d'évaluation des enseignements, évaluation des enseignants, ou élargir à l'évaluation pédagogique, disons, au sens large, tout ceci posant question. L'objet de cette présentation, donc, c'est d'une part de revenir sur le contexte, donner quelques éléments de cadrage sur cette charte qui nous réunit aujourd'hui, qui est une œuvre collective, hein. Il se trouve que c'est moi, donc Emmanuel Nadal, je suis secrétaire général adjoint à Sciences Po Bordeaux, et Xavier Darrieussecq, chargé de la qualité à l'ENITAB, qui avons un peu piloter cette démarche, mais tout ça s'est fait au sein du comité qualité, donc avec l'ensemble des établissements, hors UPPA, malheureusement, mais on est content du coup d'échanger cette expérience avec l'UPPA aujourd'hui. Donc c'est une œuvre collective. Je vais revenir rapidement sur les éléments de contexte. Qu'est-ce qui a fait, alors Vincent Hoffmann-Martineau l'a un petit peu défloré le sujet, mais je vais un peu détailler tout ça. Je lui en veux pas, c'est mon directeur, donc je suis quand même. Je vais détailler tout ça, donner les grandes lignes directrices donc de ce projet de charte d'évaluation, et puis Xavier Darrieussecq, dans un deuxième temps, détaillera plus précisément le contenu de cette charte et comment tous ces contenus peuvent entrer dans une démarche qualité, et quelle est la valeur ajoutée attendue d'une telle charte, à la fois pour les établissements pris individuellement et pour l'Université de Bordeaux conçue dans son ensemble. Donc des éléments de contexte, j'y reviens très rapidement puisque ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Le comité qualité, d'une manière générale, c'est le fruit d'une rencontre, notamment avec l'AERES dans le cadre de la préparation des évaluations de la vague A, donc en 2008. Tout ceci a fait bouillonner pas mal d'esprits, dont celui d'Antoine de Daruvar. Nous nous sommes plongés dans les ESG, donc les standards européens et lignes directrices pour l'enseignement supérieur, donc l'association ENQA, donc l'association d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur, association européenne. Et de là est née cette idée de mettre en place un comité qualité qui réunirait alors des profils assez divers. Il n'y avait pas que des qualiticiens, il y avait des novices dans mon genre qui se sont mis à faire de la qualité à la Jourdain, sans le savoir. Des chargés de mission, pilotage, des qualiticiens purs et durs, et puis à la fois, oui, effectivement, des candidats intéressés par ces questions. Trois priorités ont été définies pour l'action de ce comité qualité, qui est encore fonctionnel et qui continue à travailler sur la question de la qualité dans l'enseignement supérieur. La question de l'utilisation des données de l'insertion professionnelle des diplômés, des indicateurs de qualité pour la recherche, et cette question donc de l'évaluation des enseignements. Ça, ce sont, je dirais, les trois axes de travail qui nous ont occupés là depuis 2008. Alors, Xavier et moi-même, plus particulièrement la question de l'évaluation des enseignements. Sur la partie recherche, le travail du comité qualité a débouché sur un séminaire, c'était il y a un an ou un an et demi, un peu similaire à celui-ci, sur la qualité en recherche, un questionnement sur la manière de mettre en place des démarches qualité en recherche. Sur l'utilisation des données de l'insertion professionnelle, il y a encore un travail certainement à réaliser, mais déjà nous avons, avec l'ORPEA et avec Muriel Savary notamment, travaillé sur la qualité de l'appropriation de ces données d'insertion professionnelle qui deviennent de plus en plus importantes, qui ont été très largement structurées au sein de l'ORPEA, donc de l'Observatoire régional des parcours étudiants en Aquitaine. Et on s'est posé la question de savoir comment ces résultats, qui maintenant sont produits de manière régulière, récurrente et qui produisent un grand volume de données, comment ces résultats sont appropriés au sein des établissements par les différentes parties prenantes, direction des études, direction d'établissement, bureau d'insertion professionnelle, etc., etc. Pour ce qui relève proprement de l'évaluation des formations, ce qui a débouché sur cette charte, le questionnement était de savoir, au fond, comment positionner le comité qualité. Est-ce que le comité qualité, qui s'était formé de manière, je dirais, un peu informelle, qui s'est, je dirais, institutionnalisé sur la durée au sein du PRESS, comment est-ce que le comité qualité pouvait s'emparer d'une telle question? Est-ce que, finalement, on avait vocation à devenir un peu des arbitres des élégances ou des censeurs et dire, voilà, l'évaluation des enseignements, l'évaluation de la formation, ça doit se faire comme ça et pas autrement. Il y a les ESG, il y a le CNE, et tous les référentiels CNE, AERES qui nous disent comment il faut faire, on fera comme ça et puis pas autrement. Bon, il nous a semblé que c'était certainement prendre la question par un mauvais angle. Et en qualiticien, on s'est dit finalement, est-ce qu'on ne va pas commencer par voir ce qui se pratique déjà ? Puisqu'il fallait, encore une fois, prendre en compte la coexistence au sein du PRESS et du comité qualité d'établissements de nature très diverse, de taille très diverse et de contours très, très diversifiés. Donc tout ça a démarré par une enquête auprès des établissements parties prenantes visant à connaître les différentes pratiques, si elles existaient, et réaliser un premier état des lieux. Il ne s'agissait pas de faire un audit, il ne s'agissait pas, pour le coup, de mesurer la qualité des dispositifs existants dans les établissements, mais simplement réaliser un état des lieux. Alors, le public principalement visé, naturellement, c'était principalement les responsables pédagogiques, VPCVU, direction des études, et les services impliqués dans ce genre de démarche. Donc ça peut être parfois des cellules de pilotage, ça peut être parfois des bureaux d'insertion professionnelle, ça peut être des observatoires de la vie étudiante. Donc tous ces services ont été sollicités à travers une enquête qui n'avait pas de volonté de rigueur et de systématicité statistique, mais qui visait à faire remonter un certain nombre d'expériences et de faire émerger, si possible, soit des attentes, soit l'expression de ce que l'on pourrait définir comme des bonnes pratiques. Cet état des lieux initial, il a débouché sur le constat d'un certain nombre de points de convergence et de points de divergence, ce qui est souvent bon signe. Ça veut dire au moins qu'on n'est pas dans un modèle univoque et qu'on va peut-être pouvoir enrichir la réflexion. Les points de convergence, et ce n'était pas une évidence a priori, c'est que sur l'ensemble des établissements enquêtés, entre guillemets, des dispositifs d'évaluation existaient à l'époque ou avaient existé. Si je dis avaient existé, c'est-à-dire que dans certains établissements, des démarches d'évaluation des enseignements avaient été mises en œuvre. Et puis, pour des raisons X ou Y, mais qu'il était très intéressant d'analyser, ces démarches s'étaient progressivement ensablées ou elles s'étaient un peu dispersées. Et manquant de continuité, elles manquaient de fait de visibilité. Pour des raisons X ou Y, des raisons soit de mauvaise appropriation au sein de l'établissement de la démarche, soit des raisons exogènes. Je pense notamment à la réflexion qu'avait faite Bordeaux 3, qui est parti très tôt sur un dispositif d'évaluation d'enseignement. Et puis, il y a eu le CPE, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont fait que, pas seulement, mais je pense que vous pourrez préciser tout le contexte, mais un certain nombre d'événements exogènes qui ont fait que la mayonnaise n'a pas pris, et endogène aussi, sans doute, que la mayonnaise n'a pas pris et que ce dispositif n'a pas été pérennisé. D'ailleurs, les points de convergence, ce qu'on retrouvait dans l'ensemble des retours, on a travaillé sur une soixantaine de retours, c'était un besoin assez unanimement exprimé de perfectionner l'existant. Quand un dispositif existait, dans tous les cas, il n'était pas considéré comme parfaitement abouti. Alors, sur des dimensions très différentes, on pouvait souhaiter une amélioration de la définition du dispositif. Je vais revenir là-dessus, tout cet aspect de pilotage du dispositif. Il ne suffit pas de dire on met en place l'évaluation des enseignements. Il faut que tout ça soit, et c'est l'objet de la charte, un minimum documenté, qu'on sache pourquoi on le fait, quels sont les objectifs, comment on va le faire, quelle va être la modalité de mise en œuvre et, en termes de pilotage, à quoi tout ça va servir. Et ça, dans certains établissements, ce n'était pas encore parfaitement défini. Deuxième besoin de perfectionnement, c'était toujours, je pense, dans beaucoup d'établissements, enfin, en tout cas, je parle pour le mien, cette question de la pérennisation des dispositifs. Comment inscrire le dispositif d'évaluation des enseignements ou de la formation ou de l'environnement pédagogique, peu importe, comment l'inscrire dans un processus plus large qui est le processus de la démarche qualité, c'est-à-dire ce processus d'amélioration en continu. Encore une fois, il ne suffit pas de dire on évalue les enseignements, so what? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait de ces informations que l'on récupère? Que ce soit au niveau de l'établissement, dans la définition de l'offre de formation, ou que ce soit pour l'enseignant, dans la définition ou la réflexion sur sa pratique pédagogique personnelle. Et comment éventuellement, et c'est là que le témoignage de notre collègue de Lyon aurait sans doute été très, très intéressant, c'est là notamment que se pose la question de la manière dont les établissements facilitent l'accompagnement pédagogique des enseignants à travers des services d'ingénierie pédagogique qui peuvent aider un enseignant face à une difficulté qui ressortirait d'une évaluation. Troisième besoin de perfectionnement, la question de l'amélioration des taux de retour. Alors, je ne sais pas si Agnès parlait en disant 80-85% de retour, des retours sur l'évaluation des enseignements ou sur les enquêtes insertion. Plutôt les enquêtes insertion. Sur l'évaluation des enseignements, selon qu'on se trouve dans un établissement qui rend l'évaluation obligatoire, alors là, évidemment, on est sur des taux de retour phénoménaux, enfin, je dirais quasiment libyens, enfin, jusqu'à présent. En revanche, sur l'évaluation des enseignements, quand l'évaluation reste une évaluation laissée au libre choix de l'étudiant, il est très difficile d'avoir des taux de retour réellement significatifs. Selon, en plus, et ça me permet d'aborder le dernier besoin de perfectionnement, le type de dispositif technique qu'on va mettre en œuvre, eh bien, les taux de retour vont quelquefois être assez difficiles à faire augmenter, avec cette difficulté donc ce risque de disposer d'évaluations au fond peu représentatives. De ce point de vue-là, le taux de retour d'une enquête full web, donc entièrement en ligne, avec le libre choix laissé à l'étudiant de participer ou de ne pas participer, c'est très difficile de le faire augmenter. Alors, je ne sais pas, je crois qu'on est autour, enfin, en moyenne, de 25-30%, on considère qu'on est déjà dans un taux de retour assez, assez intéressant. Dernier besoin de perfectionnement, la modernisation du dispositif technique mis en œuvre. Alors, c'est là que l'expérience paloise aussi est intéressante, puisque le logiciel Evasys est un logiciel qui est spécifiquement conçu pour ce type d'activité. Tous les établissements n'utilisent pas ce type de dispositif, mais en tout cas beaucoup d'établissements ressentaient À travers l'état des lieux, la question du besoin de moderniser un dispositif technique, parce que mettre en œuvre annuellement ou semestriellement des évaluations d'enseignement, c'est très lourd. Si on travaille sur des questionnaires papier, c'est excessivement lourd. Si on travaille sur des questionnaires web, ça l'est un peu moins, mais déjà, ça demande une infrastructure qui est souvent assez complexe à mettre en œuvre. Les points de divergence... C'est eux aussi qui nous ont orientés dans notre démarche menant vers cette charte qualité. J'en ai relevé trois, il y en avait quelques autres, mais trois principaux. D'une part, on constatait que, en fonction des établissements enquêtés, il existait ou il n'existait pas un document cadre qui fixait les objectifs et les principes fondateurs de l'évaluation. Dans certains établissements, on avait ce document sur lequel on pouvait s'appuyer, un référentiel qui disait, voilà, on va mettre en place l'évaluation des enseignements dans telle et telle visée, soit pour l'établissement, soit pour l'enseignant. On va opérer l'évaluation de telle et telle manière, etc. Dans d'autres établissements, ce document n'existait pas, et même dans les établissements... dans lesquels ce document existait, on sentait dans les retours qu'il n'était pas forcément connu. Et en démarche qualité, on sait qu'il ne suffit pas d'édicter une règle pour qu'elle fonctionne. Il faut qu'elle soit documentée naturellement, mais qu'il faut qu'elle soit diffusée et qu'elle soit connue de tous. Une règle non connue, c'est une règle morte. Là, je parle sous le contrôle du qualiticien de service. Hein, moi, je suis... Donc, existence ou pas d'un document cadre, appropriation ou pas d'un document cadre, ça, c'était un réel point de divergence qui nous a incité à penser que, à défaut peut-être d'imposer un document cadre à l'ensemble des établissements, on pourrait imaginer un document cadre dans lequel les établissements qui ont déjà une charte pourraient s'inscrire, et dans lesquels les établissements qui n'ont pas de charte, ou duquel les établissements qui n'ont pas de charte, pourraient s'inspirer. Deuxième aspect, la question d'une instance de pilotage de l'évaluation. J'ai dit tout à l'heure, l'évaluation dans les établissements où elle était pratiquée, elle pouvait être pratiquée par des cellules de pilotage, elle pouvait être pratiquée par les observatoires, elle pouvait être pratiquée par les bureaux d'insertion professionnelle. Dans pas mal d'établissements, il n'existait pas d'instance reconnue chargée de coordonner ces démarches d'évaluation. Et quand elle existait... Cette instance, on se rendait compte que le modèle participatif à l'instance n'était pas forcément le même. Notamment la participation des étudiants à cette instance chargée du pilotage de l'évaluation n'était pas systématique, ce qui peut éventuellement poser question. On parle d'évaluation des enseignements, c'est peut-être pas mal que les étudiants soient partie prenante de ce type de démarche. C'est pas une obligation non plus. Troisième point de divergence, cette question du périmètre et de la granularité de l'évaluation. En fonction des établissements, on avait des périmètres des dispositifs d'évaluation très diversifiés. On pouvait faire de l'évaluation par formation, par UE, par enseignement, voire par enseignant. Tout ça, naturellement, répondant à des besoins spécifiques. À partir du moment où on a fixé l'objectif, on est parfaitement légitimé à dire, si mon objectif c'est... Je fais de l'évaluation pour aider un enseignant à perfectionner sa pratique pédagogique. Je suis parfaitement légitimé à faire une évaluation par enseignement qui va permettre à l'enseignant d'avoir un retour sur sa pratique. Si mon objectif, c'est de faire évoluer mon offre de formation, de faire évoluer ma carte de formation, je suis légitimé à faire une évaluation par formation ou par UE qui me permet d'avoir un retour plus large sur mes différents objectifs. Donc voilà, ce qui, on va faire une transition, je ne sais pas comment on va l'opérer par le micro. C'est sur cette base que on a, je vais le garder. C'est sur cette base qu'on a commencé à travailler à travers ces points de convergence et ces points de divergence, avec l'idée de créer un modèle qui donne des lignes directrices, mais qui ne soit pas directif au sens autoritaire du terme, dans lequel qui ne constitue pas, je dirais, un obstacle pour les établissements dans lesquels la dynamique de l'évaluation des enseignements était déjà engagés et qui puissent constituer un élément incitatif pour les établissements dans lesquels cette dynamique était soit émergente, soit en, je dirais, en panne de mobilisation. Donc c'est comme ça qu'est née cette idée de charte, donc dans le respect du principe de subsidiarité des membres du presse.
Oui, donc effectivement, fort de ces constats que nous avons pu faire et avoir et analyser à travers l'enquête, il nous a été demandé de proposer une charte par le bureau du presse. Et cette charte, effectivement, devait être un cadre. Alors je ne le dirai pas aussi bien qu'Emmanuel, mais à la fois avec des lignes directrices et, comme tu as dit, non directif. Effectivement, le premier principe, c'était de respecter la subsidiarité des membres du presse et leurs spécificités. Entre une école d'ingénieurs de 500 étudiants et une université de 20 000, forcément, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on imagine bien qu'on ne réalise pas une évaluation des enseignements de la même façon quand on a 500 ou 10 000 étudiants. Pour l'anecdote, chez nous, à l'ENITA, on est plutôt libyen, puisque c'est une obligation de répondre. Nous verrons. En fait, c'est une obligation. Hein, les étudiants sont obligés, pour avoir leurs notes, de faire l'évaluation. Et donc, ce qui, comme tout système libyen, forcément, apporte quelques difficultés après sur l'interprétation qu'on peut faire des résultats. Donc, leur spécificité, effectivement, c'était un principe qu'il fallait absolument respecter. En s'appuyant, bien sûr, sur les résultats de l'enquête, on a été très, très surpris de voir autant de dispositifs aussi différents. Et du coup, cette richesse, ben, pour nous, c'était un point de départ pour une charte. Et à la fois, ça nous donnait la grandeur du cadre qu'il fallait construire et qu'il fallait proposer. Un principe essentiel de la qualité qui, comme tout qualiticien, est une obsession, une véritable obsession, et je saurai le prouver juste après, l'amélioration continue. Ça, c'était bien sûr quelque chose qu'il fallait insuffler si on veut mettre en place une démarche qualité. Dans une université comme l'Université de Bordeaux, eh bien, il faut partir de ce principe de l'amélioration continue. Enfin, aussi, pour valoriser l'offre de formation et son adaptation permanente, il faut avoir un regard sur l'extérieur, il faut avoir une écoute de nos parties prenantes pour pouvoir en tenir compte et faire évoluer à la fois les formations, à la fois le contexte pour les apprenants et à la fois aussi l'évolution du marché de l'emploi. Et enfin, selon un calendrier raisonnable et acceptable pour tous, ce qui veut tout dire et rien dire, c'est-à-dire qu'un cadre tel qu'on voulait le proposer ne pouvait pas intégrer des étapes un peu trop planifiées et un peu trop temporisées, puisque effectivement chaque établissement, en fonction de ses spécificités, a les moyens, l'envie, la motivation d'avancer plus ou moins vite. À partir de ces principes, nous avons construit, donc, comme vous le voyez, à partir de la roue de Deming, l'amélioration continue, avec ces quatre étapes bien connues. Avec un préalable, bien entendu, quand on rentre dans un cycle d'amélioration continue, c'est se donner des objectifs, c'est ce qu'on a décrit dans le point 1 de la charte, que l'on va décrire un peu plus loin. Sur l'étape de planification, eh bien, ce sont les points 2, 3, 4 et 5 qui sont la formalisation de qui fait quoi, quand et comment, et on verra que c'est finalement formalisé de façon, là encore, très spécifique pour chaque établissement, ce qui sera fait pour réaliser les évaluations. Deuxième point dans la planification, c'est identifier tous les participants et aussi, bien sûr, leurs responsabilités, leurs missions, leur rôle dans tout ce qui va être évaluation. Et enfin, adapter les moyens, quels moyens on va mettre en œuvre pour finalement réaliser ces évaluations et, en bout de compte, atteindre les objectifs attendus. Point suivant sur l'étape du faire, eh bien, c'est réaliser les évaluations, sache chacun. Chaque établissement est en charge de les réaliser. Enfin, sur l'étape du contrôle, on va mettre en place, dans le point 8, un point sur le suivi et l'analyse des évaluations. Sans ça, effectivement, il n'y a pas de démarche qualité. Le bilan sera fait sur l'étape 4, où on va réaliser un bilan et proposer des améliorations à la fois de ce qui a été fait, mais aussi à la fois des dispositifs, du dispositif lui-même, en tenant compte de tous les éléments d'entrée qu'on pourra recueillir en interne comme en externe. Enfin, communiquer les résultats, on l'a mis dans le point 9, tout en sachant que tout au long du dispositif, il y a une nécessité impérative de communiquer à tous les niveaux et à toutes les étapes. Voilà comment on a construit cette charte sur ces points-là, donc en 10 points. Et si on va un peu plus dans les détails, dans le point 1, des objectifs sont proposés par la gouvernance de l'établissement, bien sûr en cohérence avec des objectifs généraux de l'Université de Bordeaux, mais avec, encore une fois là, le respect de chaque établissement de se fixer des objectifs en fonction, finalement, de là où il en est. Bien sûr que les objectifs des évaluations sont importants pour l'université, qui a aussi sa finalité, et on verra les valeurs ajoutées attendues par l'université elle-même, mais chaque établissement a aussi à se fixer ses propres objectifs. Le point 2, c'est un comité de pilotage suit ces dispositifs d'évaluation. Alors, dans ce comité de pilotage, on a voulu y faire figurer, et ça fait partie de la charte, l'ensemble de ceux qui nous paraissent les plus importants comme interlocuteurs, c'est-à-dire des représentants de la direction, des représentants des étudiants, des représentants des enseignants, des représentants des responsables de la pédagogie, qui ne sont pas forcément les mêmes, et des représentants des fonctions techniques ou support, qui sont eux-mêmes impliqués, bien sûr les services informatiques, les services liés aux activités support comme les secrétariats ou autres. Toutes ces activités-là ont leur place dans ce comité de pilotage puisque cette instance-là sera en charge de suivre les dispositifs. Là aussi, c'est un mot très générique, hein, comité de pilotage, puisque à chaque établissement, là aussi, on a constaté à travers les résultats de l'enquête que ça pouvait être... Enfin, en tout cas, tout un tas de noms possibles. Et là aussi, la diversité nous est apparue comme assez riche. Et donc, un comité de pilotage, c'est tout à fait générique. Le point 3 de cette charte, c'est une procédure documentée existe, elle est connue et disponible. Alors évidemment, une procédure documentée, c'est finalement être dans la description de ce qui est fait. Évidemment, ce n'est pas ce qui est le plus populaire en démarche qualité. Mais pourtant, si on veut de la lisibilité, si on veut effectivement que chacun puisse fonctionner selon un protocole, une procédure en monopératoire, comme on veut l'appeler, eh bien, quand c'est formalisé, eh bien, ça peut être partagé, ça peut être communiqué, et c'est disponible, et on peut y revenir, sachant que ce qui est écrit ne l'est pas forcément dans le marbre, et que ça peut évoluer en permanence. Donc cette procédure, on a vraiment pensé que ça devait faire partie de la charte. Et d'ailleurs, c'est aussi un des points qui avait été relevé, puisque dans un même établissement, au cours de l'enquête, certains nous parlaient dans un même établissement, je répète, d'un dispositif, et dans le même établissement, d'autres nous parlaient d'un autre dispositif. Or, il semble bien que les gens fonctionnaient de la même façon dans l'établissement. Donc c'est que là, effectivement, il y a quelque chose qu'il faut formaliser, et qui deviennent finalement communs à tous. Le point 4 de la charte, c'est chaque établissement fait le choix d'une granularité et de la fréquence des évaluations. Là encore, chacun est libre de considérer qu'il peut faire une évaluation sur tout un enseignement, sur tout un module, sur toute une matière ou sur une partie. Là, je crois qu'en fonction des objectifs que se fixe la gouvernance de chaque établissement, eh bien, la granularité et la fréquence des évaluations doit aller dans le sens de l'obtention des résultats, en tout cas des objectifs. Et à la limite, chaque établissement, là encore, doit se poser les questions et doit tenir compte de ses spécificités. Le point 5 de la charte, c'est les critères d'évaluation sont choisis. La charte ne choisit pas elle-même, c'est qu'on suggère fortement de réfléchir quels critères sont importants pour savoir si une formation s'est bien déroulée, pour savoir si une formation doit être améliorée. Alors ça va être aussi des critères aussi bien pédagogiques que des critères finalement de d'installation ou de tout ce qui va contribuer à la réalisation des formations. Ça peut aller des locaux jusqu'à la communication de l'emploi du temps ou autre. Tous ces critères-là devront être identifiés par chacun des établissements. Et là aussi, on s'aperçoit que dans la diversité des réponses à l'enquête, qu'il y a nécessité de réflexion sur le choix des critères qui, là encore, peuvent évoluer au fur et à mesure des années. Point 6. Tous les acteurs sont clairement identifiés et ils sont nombreux quand on parle d'évaluation. Donc les critères, on l'a vu. La gouvernance de l'établissement, le comité de pilotage, quelle est sa mission, qui constitue ce comité de pilotage, quand est-ce qu'il intervient. Les étudiants et leurs représentants, eux aussi, sont bien sûr des acteurs importants. Quelle place on va leur accorder? Les enseignants et responsables pédagogiques, qui va participer aux évaluations, à leur suivi, à la définition, à la mise en œuvre des actions d'amélioration? Là encore, des précisions dans cette procédure d'évaluation, qui fait quoi? Le point 8, qui est un point évidemment important, c'est les résultats sont analysés et exploités, et c'est là qu'on s'est rendu compte que la majorité, la plupart des dispositifs aujourd'hui existants sur l'Université de Bordeaux, eh bien, étaient pas aboutis. C'était bien sur cette étape-là d'exploitation, d'analyse et d'exploitation des résultats qu'il y avait le plus à faire. L'analyse, elle est faite. L'exploitation de ces résultats, on a trouvé peu d'établissements qui avaient effectivement cette, non pas la volonté de le faire, mais bien les dispositifs pour exploiter les résultats de ces évaluations. Le point 9, une communication spécifique est mise en place. Là, ce qu'on a voulu dire à travers ce point 9 lié à la communication, c'est que systématiquement, à chaque étape de cette évaluation, de cette procédure d'évaluation, eh bien, on doit pouvoir communiquer avec les parties intéressées et les acteurs qui interviennent sur chacune de ces étapes. Donc, à chaque établissement qui applique cette charte, de se poser la question, je communique quoi, à qui et quand. Enfin, le point 10, le bilan périodique est réalisé, à savoir quels sont les résultats obtenus, quels sont les points forts dans ma procédure d'évaluation, quels sont les points qui sont à améliorer, est-ce que j'ai tenu compte de mon analyse des résultats, est-ce que j'ai pris en compte tout ce qui doit être amélioré, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que ce que j'ai fait est efficace par rapport à ce que j'en attendais. Et donc ce bilan-là, effectivement, est un point important de la charte, puisque systématiquement et régulièrement, le comité de pilotage, avec la gouvernance de chaque établissement, doit pouvoir être en mesure de faire ce bilan pour pouvoir de nouveau se fixer des objectifs. D'abord, en premier lieu, c'est faire le bilan par rapport aux objectifs, est-ce qu'ils ont été atteints, s'ils n'ont pas été atteints, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et enfin, de pouvoir se fixer de nouveaux objectifs. Donc voilà, très rapidement décrit ces 10 points, encore une fois, qui répondent à l'obsession des qualiticiens, c'est-à-dire l'amélioration continue. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme avantage de cette charte? D'abord, pour chaque établissement, effectivement, c'est de pouvoir réfléchir sur son dispositif actuel et l'améliorer. L'améliorer, on pense que si chaque établissement suit point par point la charte, elle va déjà, dans un premier temps, pouvoir faire un état des lieux de ce qu'elle fait par rapport à ce qu'il devrait faire pour avoir des évaluations abouties. Donc ça doit être une aide, cette charte est bien là pour aider les établissements pour aller plus loin dans l'évaluation de leurs enseignements. Des échanges d'expérience pour la mise en place et le suivi des évaluations des autres établissements, on a déjà, nous, à travers l'enquête qu'on a menée, toute une banque de données, tout un tas d'expériences différentes, diverses, des différents établissements, qui permettent à chacun d'y puiser finalement ce dont il a besoin. Et pour nous, comité qualité, ça a été très riche de pouvoir échanger sur les dispositifs des uns et des autres. Donc pour chaque établissement, c'est aussi dans cet intérêt-là que la charte, point par point, est un avantage. Enfin, c'est un outil de qualité au service de la concertation et de la transparence. Bien sûr, c'est un des objectifs de cette charte, et c'est un des objectifs probablement du bureau de l'Université de Bordeaux, c'est de pouvoir mettre à disposition des établissements des outils qualité qui sont là au service, comme tout outil, ce n'est pas là pour conduire ou diriger, c'est bien là pour aider. Et donc, cette charte est un outil et doit être considérée comme telle. Pour l'Université de Bordeaux, plus largement, ben voilà, c'est disposer d'une plateforme d'échange des pratiques, de partage des résultats, des dispositifs communs d'accompagnement technique et pédagogique. Ça, c'est un des grands objectifs qui a été fixé par le bureau de l'Université de Bordeaux. C'est de dire, à travers cette charte, finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à disposition des établissements pour les aider dans ces démarches. Enfin, c'est une communication vers les parties prenantes, bien entendu, quand on va pouvoir, à la fois pour chaque établissement, produire des résultats, constater des améliorations. On l'a vu au travers de l'exposé de l'Université de Pau. Évidemment, il y a les tableaux de bord, il y a tout ce qui va pouvoir être affiché. Il y a aussi les progrès, hein, même s'ils s'en défendent, c'est quand même, on peut imaginer que la démarche qualité a été moteur dans l'amélioration qu'on a pu constater sur les courbes qui nous étaient présentées. Et donc, c'est bien là un outil de communication, à la fois pour valoriser l'offre de formation et aussi pour tenir compte de tout l'environnement de l'université dans ses parties prenantes que sont les pourvoyeurs d'emplois, bien entendu, le monde industriel et tout l'environnement de l'université. Donc voilà, en quelques mots assez brefs et non détaillés, ce qui nous a amené à construire cette charte, comment elle a été construite, qu'est-ce qu'il y a derrière chacun des points, et finalement, quels sont les avantages attendus par rapport à la diffusion de cette charte. Nous pensons que la crédibilité de ces démarches, effectivement, passe par l'exploitation des résultats et l'amélioration qui doit être visible, communiquée, perceptible, et qui doit en fait crédibiliser véritablement l'enquête. Effectivement, des enquêtes qui n'aboutissent pas et qui finalement lassent plus qu'elles n'apportent. On en a vu, on en connaît, il y en aura encore. Vous avez remarqué que un des points de la charte, c'est bien d'insister sur qu'est-ce qui est fait des résultats. Quelles sont les pistes d'amélioration qui se dégagent? Quelles sont les actions qui sont menées? Et puis, quelle est la communication qui est faite? C'est-à-dire qu'on sait en qualité, en démarche qualité, qu'on doit être dans le démonstratif. À savoir, si on met en place une action d'amélioration, il faut pouvoir très vite que ceux qui l'ont demandé, qui ont fait le constat, voient des résultats positifs. Sans ça, effectivement, ça n'a pas d'utilité que de perdre du temps et de faire perdre du temps.
Est-ce qu'il existe des exemples dans les universités où les résultats sont communiqués sur le web, c'est-à-dire pas en sachant ça c'est un mauvais ou un bon élève ou je ne sais pas quoi, mais dans le sens que nous avons retenu ce message d'une enquête et regarde à notre politique de l'année prochaine qui est sur une page d'accueil, hein, pas quelque part dans un... Voilà.
Alors, nous, on ne procède pas de cette façon sur la page d'accueil. Ce qu'on fait, c'est qu'en CEVE, c'est-à-dire vraiment l'instance où on parle avec les étudiants, la vie étudiante, il y a un compte-rendu qui est fait systématiquement et qui est diffusé ensuite par les représentants des étudiants sur les résultats des évaluations où chaque enseignant a, sur son évaluation, proposé des actions. Et effectivement, c'est systématiquement discuté en CEVE. Alors, c'est parfois long, parce qu'il y a beaucoup d'évaluations, mais à la fois, depuis qu'on a mis ça en place, hein, puisque nous, c'était dans le cadre de notre certification ISO 9001, eh bien, les représentants des étudiants sont beaucoup plus actifs. Mais ça va au-delà même de l'évaluation des enseignements. Ils sont posés beaucoup plus actifs dans la démarche globale de l'établissement, parce qu'ils se sentent concernés et ils se sentent écoutés. Ils voient que ce qu'ils nous disent, ça a une incidence. Parfois, on leur dit non, parce qu'il faut savoir aussi leur dire non, mais parfois, ils constatent qu'effectivement, ce qu'ils nous ont demandé, ça a été mis en place. Et qu'on se préoccupe de savoir si ce qu'on a mis en place correspond à ce qu'ils attendaient. Mais si on ne fait rien, on leur dit aussi qu'on ne fera rien, et parfois même, certains enseignants n'ont pas besoin de le motiver. C'est pour contrebalancer le client est roi. Non, c'est un étudiant, il a certains droits et beaucoup et des devoirs. Il n'est pas, on ne répond pas systématiquement à tout ce qu'il voudrait bien voir mis en place.
Si je peux juste rajouter un petit point, votre remarque est très pertinente, parce qu'en fait, quand on parle d'évaluation des enseignements, on a tendance à ne considérer, ou des formations, on a tendance à ne considérer que le processus médian. Et l'objectif de la charte, c'était de réfléchir, ou d'aider les établissements à réfléchir au processus amont, c'est-à-dire tout ce qui va être définition d'objectifs, et au processus aval, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des résultats et comment est-ce qu'on met en œuvre effectivement des actions de remédiation ou d'échange de bonnes pratiques aussi. Ça, c'est un point qui est trop peu exploité. Une évaluation, une bonne évaluation d'un enseignement ou d'une formation, ça doit permettre aux responsables de formation ou à l'enseignant de pouvoir mettre en avant ces bonnes pratiques et les partager avec d'autres. C'est pas simplement, je dirais, un dispositif punitif qui va pointer le mauvais élève et éventuellement, au mieux, lui proposer des solutions de remédiation. Ça peut être aussi quelque chose de très qualitatif qui va permettre d'instaurer à l'intérieur d'un établissement des lieux d'échange sur les bonnes pratiques pédagogiques. Mais effectivement, tout ce dispositif amont. Est-ce qu'on se fixe des objectifs? Quels sont les objectifs qu'on se fixe? Souvent, il est malheureusement un peu zappé par les établissements. On l'a vu, certains établissements n'avaient pas de charte, ou s'ils en avaient une, elle n'était pas diffusée, donc elle n'était pas connue, donc elle n'existait pas de fait. Et le processus aval, c'est-à-dire comment est-ce qu'on valorise ces résultats? Les résultats ne sont fiables que si on a 100% d'étudiants volontaires. Parce que on peut avoir 100% d'étudiants, dont 80 n'ont aucune envie de répondre au questionnaire et vont complètement saboter le résultat. Et à la limite, enfin, en tout cas, moi, c'est le choix qu'on a fait à l'IEP. Mieux vaut 30, 40, 50% de participation, mais de participation motivée. Positive, je dirais, au sens pas nécessaire, ça peut être critique, hein, mais de participation qui veut faire avancer les choses, plutôt que 100%, dont un pourcentage qu'on ne pourra pas déterminer risque de polluer les résultats. Ouais. Cela dit, c'est une vraie question.
Sauf que, ouais, moi, ce que je crois, c'est que au fur et à mesure de la mise en place de la charte, effectivement, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de démarrer avec des chiffres bas. Et que c'est bien dans le démonstratif de l'efficacité de ces processus que, effectivement, on va améliorer la participation. Moi, ça me semble mécanique.
Tout le travail, enfin, d'expérience, alors c'est une expérience qui vaut ce qu'elle vaut, hein. On augmente la participation chez nous à peu près de 10% chaque année. On est parti autour de 30%. On est à l'heure actuelle, ça fait 3 ans qu'on fait ça. On est maintenant sur pas mal de promos. On est parti de 20-25. On est sur 45-50. Mais ça, on n'y arrive que par le travail de communication. Alors c'est pour ça qu'on l'a inscrit vraiment comme un point essentiel dans la charte qualité. Pas simplement la communication sur l'existence de l'évaluation. Et je dirais les étapes factuelles, attention les étudiants, l'évaluation démarre, participer, mais également tout ce travail de feedback vers les étudiants, c'est-à-dire qu'il faut que les étudiants à un moment donné aient conscience que leurs évaluations servent à quelque chose. Alors à la soyons clairs, ça ne veut pas dire que l'étudiant est roi, Xavier l'a dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que parce que l'étudiant dit quelque chose à travers son évaluation, on est tenu d'y répondre par l'affirmative et de modifier un dispositif. Mais à tout le moins, si on dit non, cet enseignement ne changera pas, cette formation ne changera pas, qu'on soit en mesure d'expliquer aux étudiants pourquoi. malgré une évaluation négative ou problématique, on considère que cet enseignement est nécessaire à ce niveau de formation. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un des aspects de la communication. Ce n'est pas simplement communiquer aux étudiants la date de début et de fin de l'évaluation, c'est aussi derrière être en capacité. Et c'est souvent difficile à faire parce qu'effectivement, il y a un peu de... On se met un peu en danger quoi, face aux étudiants, on se met un peu à nu. Mais il faut se mettre en capacité périodiquement d'expliquer aux étudiants voilà ce que vous nous avez fait remonter, voilà les informations que nous avons reçues de vous, voilà ce qui nous semble pertinent, voilà ce sur quoi il nous semble que, d'accord, il y a un problème, mais on va continuer comme ça parce qu'on a des bons arguments à faire valoir. Et petit à petit, on fait progresser comme ça, mais c'est long, c'est une culture. C'est un apprentissage à la fois pour les enseignants ou pour les personnels, l'évaluation, mais c'est aussi un apprentissage pour les étudiants. Hein.
Juste pour finir, moi, ça ne me choque pas qu'un établissement se fixe 15 à 20% de participants dans une première année. L'important, ce n'est pas tellement la performance par rapport à l'indicateur, c'est plus l'année suivante, qu'est-ce qu'on va se fixer, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça s'améliore. Et l'indicateur, c'est bien là pour démontrer qu'on a progressé.
Ça, typiquement, c'est le travail de l'instance de pilotage, effectivement, de réfléchir collégialement sur ces aspects, notamment de banque de questions. Comment est-ce qu'on définit le questionnaire proposé ou les questions potentiellement proposées. Moi, je suis assez... C'était un des résultats de l'enquête. Hein. Il y avait beaucoup de dispositifs très différents, et notamment tous ces aspects, on en a parlé avec le PPA, de commission paritaire, de groupe de parole, qui peuvent intervenir en amont. Pour ce qui concerne l'IEP, par exemple, on a un dispositif hybride, avec d'un côté des commissions pédagogiques, qui sont un lieu d'échange direct entre des représentants étudiants de groupe et des responsables pédagogiques, qui vient doubler... une enquête plus quantitative, bon, qui intègre des questions ouvertes, mais plus quantitative. Et effectivement, le croisement de ces deux types d'approches est souvent très, très pertinent, parce que ça permet effectivement de relativiser, déjà de défétichiser le chiffre de l'enquête quantitative, le pourcentage, la bonne note ou la mauvaise note, qui est le cauchemar de l'évaluation d'enseignement, ce qu'on souhaite éviter à travers un échange beaucoup plus direct avec les étudiants, qui permet effectivement de faire remonter en amont des enquêtes certaines difficultés spécifiques, d'y remédier peut-être avant même l'enquête proprement dite, et en tout cas de croiser des informations ce croisement est souvent assez instructif. Mais il y a effectivement beaucoup d'autres indicateurs en amont possibles à mobiliser pour orienter des enquêtes d'évaluation.